Aujourd'hui, dans le cadre du journal estival de Castellane, vous êtes invité à partir dans le petit monde de Bargem pour y écouter de la musique baroque. Baroque, vous avez dit baroque, comme c'est bizarre.
Le mot baroque vient du portugais barroco qui signifie perle irrégulière. Ce terme a été donné a posteriori par opposition au classicisme. Le style baroque qui touche tous les domaines artistiques de son époque, sculpture, peinture, littérature, architecture, théâtre et musique, se caractérise par le mouvement, la démesure, les oppositions, tout ceci restant cependant bien encadré, Véronique.
La musique baroque est apparue au début du XVIIe siècle jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. 1750, la mort de Bach. Les deux principaux pays dans lesquels elle s'est développée sont l'Italie et la France. Mais c'est en Allemagne, avec Jean-Sébastien Bach, que la musique baroque a culminé. Cette musique est restée marginale jusque dans les années 50.
Quelques noms de grands compositeurs baroques: Bach, Vivaldi, Handel, Pachelbel, Albinoni, Monteverdi, Telemann, Couperin, Lully, Charpentier, Rameau.
C'est donc à Bargem, un bijou architectural du Haut-Var, à quelques kilomètres de Castellane, que nous avons choisi de vous emmener pour y découvrir tous ces trésors. Nous vous souhaitons un agréable voyage.
Arrivé dans un hameau pour rencontrer Philippe Soriano, organisateur du Festival baroque de Bargem. De quand date de votre passion pour la musique en général ?
Depuis l'adolescence, quand j'étais encore étudiant, j'ai senti cette attirance pour la musique et très vite je suis allé dans les concerts. Et puis après, dès que j'ai commencé ma vie professionnelle, automatiquement j'ai continué à courir les concerts et à aimer la musique en général.
Et la musique baroque ?
Alors la musique baroque, ça a commencé un petit peu dans les années fin 70-80. Par le clavecin. C'est en découvrant le clavecin que petit à petit j'ai cheminé vers la musique baroque. Et comme je pensais à l'époque, dans les années 70, que la musique baroque et la musique pour clavecin n'avaient peut-être pas encore la place qu'elles méritaient, il y avait un petit côté militant qui fait que je me suis laissé aller à cette musique et je l'ai défendue le plus que je pouvais.
Quand on dit baroque, ça a un côté un peu péjoratif, c'est un peu foufou, c'est un peu excentrique. Cette musique n'a commencé à être connue que dans les années 50.
Oui, donc en effet, le mot baroque, dans le sens commun, a un côté un petit peu excessif. Hein. Voilà, un petit peu, oui, c'est ça, hein. Un peu extravagant même. Hein. Le mot baroque, c'est très précis, hein. Simplement, c'est une époque. C'est une période musicale qui va du 17e vers le milieu fin 18e, qui vient juste après la musique renaissance et qui va juste avant la musique classique puis romantique. Et donc non, ça n'a rien de foufou et de loufoque ou de trop excessif. C'est vraiment très précis. C'est une période baroque.
Comment avez-vous donné naissance à ce festival ?
Justement, comme je disais il y a un instant, que je courais les concerts très facilement avec des amis, à force d'aller dans les concerts, on a fini par avoir des connaissances, et à connaître des musiciens, à créer des liens de sympathie, sinon amicaux. Et donc, en parlant avec les musiciens, d'une part, et d'autre part, habitant Bargem, Bargem étant un lieu vraiment idéal, très séduisant, l'idée de pouvoir produire des concerts à Bargem m'est venu assez vite en fait. On a commencé prudemment par un seul concert une année qui a eu beaucoup de succès. L'année suivante, deux concerts y a eu aussi beaucoup de succès. Du coup, depuis 30 ans maintenant, on fait trois concerts par an et ça marche à chaque fois formidablement. Puis on a des fidèles là, qui continuent à nous soutenir. Et on a toujours bien besoin parce que parmi les jeunes générations, c'est pas évident hein, actuellement d'attirer. Bon, il y en a quand même, hein, il y a pas mal de jeunes qui viennent, mais enfin, on aimerait qu'il y ait un peu plus dans le public, un pourcentage de jeunes auditeurs plus important, quoi.
Comment vous êtes-vous organisé en association pour ce festival ? Comment vous faites ?
Oui, c'est ça. Nous avons créé une association à l'époque avec Monsieur Jasso, qui était le maire de Bargem. C'est lui qui nous a beaucoup aidés d'ailleurs hein, pour créer ce festival. C'était des musicales hein, et il nous a beaucoup soutenus. Et donc, on a créé une association des amis du vieux Bargem. Et à partir de là, ça nous a permis d'avoir la structure juridique et administrative de faire ces concerts.
Vous avez pris votre retraite l'an dernier. Vous étiez médecin généraliste, le médecin généraliste du canton, puisque vous y avez passé combien d'années ?
Alors, 40 ans.
40 ans, et la plupart du temps, vous avez été tout seul comme médecin ?
Oui, exactement, oui.
Et vous faisiez les permanences de nuit, de jour, de week-end, donc 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 ?
C'est ça, oui. J'étais encore un des derniers, peut-être, médecins de campagne, tel qu'on l'imagine, c'est-à-dire le médecin disponible. 24 heures sur 24, de nuit, on pouvait me téléphoner. Je me baladais toujours avec mon téléphone à portée de main. Hein. C'était vraiment la vie de médecin de campagne qui est toujours disponible, quelle que soit l'urgence, faible ou quelle que soit l'heure, ou au contraire, une urgence plus difficile. Puisque j'étais aussi médecin sapeur-pompier, avec donc tout le matériel qui va avec, de réanimation, etc. Et voilà, c'était une vie assez fatigante, mais en même temps passionnante aussi. Et donc, je ne regrette pas d'avoir vécu cette vie de médecin de campagne. Je revendique ce titre. Je ne regrette pas du tout, malgré la fatigue, parce que c'est vraiment très enrichissant. À l'âge que j'ai, je ne serais pas exactement ce que je suis si je n'avais pas exercé ce métier-là, ici, dans ce canton.
C'est un métier humainement fort.
Exactement. C'est un métier humainement fort. C'est à la fois techniquement intéressant, parce qu'on est loin des centres hospitaliers, donc il s'agit d'avoir un niveau technique certain quand même. Hein. Et en même temps, on est très proche des gens. Et puis, comme on est proche des gens, on finit au fil des années par avoir de l'affection, par les aimer. Et justement, on ne peut pas faire ce métier si on n'aime pas vraiment les gens. Il faut vraiment avoir cet amour de l'autre, des autres, pour que quand le téléphone sonne à 4h du matin et que c'est l'hiver, eh bien, on se lève, sinon volontiers, mais on se lève et on y va sans hésiter, quoi.
Vous étiez d'ailleurs le dernier médecin du Var à faire toutes ces permanences.
Je ne sais pas si j'étais vraiment le seul.
J'ai toujours entendu dire ça.
Un des derniers peut-être. Mais c'est vrai que j'entendais qu'il y avait beaucoup de difficultés pour que... Et dans les cantons, en tous les cas dans les cantons voisins, je sais qu'il n'y avait pas de garde la nuit.
Mais même à Draguignan ?
Et même à Draguignan, je crois que c'est...
Il
n'y en a pas non plus, non. C'est ça, c'est ce qu'on m'a dit, oui. Alors je ne sais pas, peut-être dans d'autres coins un peu reculés du Var, il y a peut-être d'autres médecins, et je ne sais pas, sur l'île de Porquerolles peut-être, mais un des derniers sûrement, un des derniers, oui. Alors j'arrive pas à comprendre pourquoi, parce que quand on fait ce métier, quand on choisit ce métier, on sait ce à quoi on s'attend, sinon on fait autre chose, quoi.
Dans toute cette activité qui vous prenait toute votre vie, en quelque sorte, comment faisiez-vous pour organiser ce festival ? Vous avez trouvé le temps, voilà.
Voilà, c'est ça. C'était une course contre la montre. C'était vraiment une course contre la montre. Et puis, évidemment, j'étais aidé par ma famille, hein, par mes proches, ma sœur, des amis. Sinon, cela n'aurait pas pu être possible. Mais c'était chaque fois, quand je travaillais et qu'il y avait les concerts, c'était du matin au soir, c'était la course complète.
Direction le village. Après l'intersection, Chaman nous accueille. De ses 2 mètres de hauteur, drapé dans sa tenue de calcaire lumineux, cet androgyne veille sur le passage des visiteurs. Sculpture d'Elsa Magri. Un arrêt pour regarder le village médiéval le plus haut du Var, dominé par les tours de son château fort, en partie dévasté. À 1097 mètres d'altitude, Bargème se tient honorablement au classement des plus beaux villages de France et de Navarre. L'entrée principale du village, devant la porte de garde. À gauche, sous le mur de fortification, un beau restaurant panoramique, les jardins de Bargème. Et en haut de la voûte demeure l'emplacement de la herse.
On reprend la grimpette vers la mairie. Une exposition. Ah, la dame assise à l'intérieur a l'air de bien connaître l'endroit. Françoise Franjou.
La visite de l'exposition commence par la cuisine de la dernière institutrice qui s'est trouvée donc dans le village de Barchem. Suivez-moi. Ici, vous avez une exposition sur la cuisine sauvage, sur comment utiliser les plantes. C'est une exposition très bien illustrée et fort intéressante. Et ici, nous nous trouvons dans la partie musée. Des objets qui sont accrochés sur les murs, qui ont servi et qui servent encore de nos jours, ainsi que des peaux d'animaux qui sont accrochés, que chacun peut toucher, puisque ce sont des animaux, exemple sanglier, que l'on voit dans les champs, mais qu'on a rarement l'occasion de pouvoir toucher.
Vous êtes également guide du village. Vous pouvez nous dire un peu quelles sont les particularités de Barchem ?
Le village de Barchem est le plus haut village du Var, 1097 mètres. C'est un village donc médiéval du XIIe siècle, construit sur un piton rocheux, entouré de remparts, dont il reste une bonne partie, et de portes, dont la porte du Levant et la porte de garde. Regardez les ruelles, elles sont très étroites, parsemées de petites venelles ou d'escaliers qui permettent de passer d'une ruelle à l'autre. Les maisons aux petites lucarnes et portes arrondies témoignent de la vie des habitants qu'il y avait autrefois dans ce village.
Justement, actuellement, parmi les 167 habitants recensés en 2011, combien habitent encore le village ?
À l'année, 5. Un petit peu plus de monde l'été. Le reste des habitants habitent dans les 8 hameaux aux alentours. C'est un site classé. La protection du site a eu lieu dès 1967.
Vous faites une visite du site tous les jours ?
Alors, il y a une visite du site tous les mois de juillet et août, sauf pour cette année, le mardi et le mercredi. Donc, tous les après-midi, 14h30 et 16h30. Il y a une visite qui explique un peu toute l'histoire qui s'est passée ici. Le château est avant tout un ouvrage militaire qui a un rôle défensif pour les habitants qui vivent autour. Inattaquable du côté nord et côté sud, une vue qui permet d'apercevoir vraiment très très loin qui est-ce qui vient vers le village. Donc dans ce château, il comprend une tour carrée du XIIe siècle, la première des tours qui a été construite, et 4 tours rondes. La fin de la construction se situe à peu près au XIVe siècle, mais comme partout, il y a eu des transformations au cours des siècles. Entre autres, nous sommes à la recherche de fonds monétaires pour un projet de chantier de réinsertion en vue de consolider tous les murs restants, quand même, qui sont nombreux, que notre château tienne le plus longtemps possible debout.
Ce château appartenait au Pontevès, il a été racheté récemment par la mairie.
Alors, si on commence l'histoire, en fin de compte, ce château appartenait au Pontevès, dû au mariage de Douceline, qui était la seule fille héritière de Foulque de Pontevès et qui apportait en dot à Isnardagou, donc son mari, la seigneurie de Barchem. L'histoire des seigneurs de Pontevès est bien mouvementée, surtout pendant la période de 1579. À cette époque, Jean-Baptiste de Pontevès, qui est donc le seigneur de Barchem, est déjà en procès avec les habitants de Calas et les habitants de Barchem. Et il y aura malheureusement dans la famille des seigneurs de Pontevès de Barchem 2 assassinats à Calas et plus 4 autres à Barchem, dont le dernier se situe en 1595 dans l'église même. Effectivement, le château a été pendant longtemps la propriété des Sabrans de Pontevès. La mairie avait un bail emphytéotique de 99 ans. Et quand la duchesse Sabrans de Pontevès est décédée, la mairie a fait un droit de préemption et a racheté le château.
Pour expier les crimes qui ont été commis vis-à-vis de la famille de Pontevès, le tribunal d'Aix-en-Provence avait condamné le village à construire une chapelle pour expier ce crime, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Donc les habitants de Barchem ont été obligés de construire cette petite chapelle qui finiront en 1607. Ils devront dire pendant longtemps une messe basse tous les jours de l'année et une messe haute avec l'office des morts tous les 24 mai, date à laquelle Jean-Baptiste de Pontevès, donc seigneur de Barchem, a été assassiné sur Canas.
On parle de cette chapelle, mais il y a beaucoup de lieux sacrés pour un si petit village ici.
Il y a quand même beaucoup de chapelles, effectivement, et il y en a qui ont disparu d'ailleurs. Aujourd'hui, il reste donc la chapelle Saint-Pierre, qui se trouve dans un hameau, mais qui malheureusement sert de grange à fourrage, on va dire comme ça. La chapelle Saint-Laurent, qui a été restaurée, qui se trouve dans un joli petit hameau à l'ouest du village. La chapelle Saint-Antoine, au bas du village, qui a été restaurée aussi dernièrement. Et la chapelle Sainte-Pétronille, qui est dédiée à la Sainte, dont la fête est le 31 mai. Cette chapelle, on peut l'apercevoir au carrefour de Barchem, en bas sur la grande route. Autrefois, donc, le prêtre bénissait le pain, le sel et les moutons, les transhumants. Aujourd'hui, la tradition est bien conservée et c'est vraiment un moment merveilleux.
Alors, nous parlons des chapelles, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'église Saint-Nicolas dans laquelle se déroule le festival de musique baroque ?
En quelques mots, franchement, elle est magnifique.
Alors pourquoi est-elle magnifique ?
Alors, elle fut édifiée donc fin 11e, 12e siècle. Elle est magnifique aussi par rapport à ses retables. Elle a deux magnifiques retables du 17e siècle, un de Saint-Nicolas et un pour Sainte-Pétronille. Un triptyque dont la partie centrale est début 16e siècle. Et elle est vraiment très surprenante. Ah, le four communal. La place de la mairie. Les porteurs arrivent dans l'église pour installer le clavecin.
Moi, je suis. Ah, c'est bon là, ça veut dire que le troisième. Bon,
nous,
c'est bon.
Nous y sommes. Il y a une accord qui est déroulée. Côté ah, sud, nous y sommes.
Ah, oui, c'est le tissu qui bloque.
Et là, il est accordé.
Comment ?
Il est accordé là ?
Ah non, il n'est pas accordé, non. C'est le musicien qui l'accordera lui-même. Un peu avant la répétition et avant le concert aussi.
Philippe ?
Oui.
Vous avez besoin de moi encore là ?
Non, ça y est.
Juste parce que comme ça, je libère.
Très bien. À demain soir.
Ah, d'accord.
Au revoir, merci beaucoup de votre aide.
Avec plaisir.
Bonne journée. Au revoir.
Au revoir.
Bon, il est arrivé entier. Et là, c'est le nom du constructeur, ça. Enfin, du facteur, plutôt. Et en fait, c'est des cordes pincées. Comme tu vois, c'est contrairement au piano. Mm-hmm. Le piano, c'est des cordes frappées.
Frappées,
oui. Et là, il y a des petits becs qui sont là-dessous et qui pincent les cordes. Ouais. Voilà, bah... Il est beau, hein. C'est beau comme...
Magnifique. Vous l'avez acheté
que... Oui, oui, je l'ai acheté il y a pas mal d'années, une vingtaine d'années.
Pour quelle raison vous l'avez acheté ?
Eh bien, souvent parce que c'est un instrument qui est c'est fragile, un clavecin à déplacer, d'une part. Et d'autre part, c'est pas facile à trouver, surtout en région PACA. Là, il n'y a pas tellement de clavecins et les gens, quand ils en ont, ils veulent pas tellement qu'on les déplace. Donc, on l'a acheté justement pour les concerts. Enfin, on l'a fait construire, hein. Il a fallu un an pour le construire. On demande à un facteur, on le commande et au bout d'un an, l'instrument a été prêt, quoi. Voilà, et il vient de Normandie.
À chaque concert, il y a le clavecin.
Oui. Ça peut arriver quelquefois qu'il n'y ait pas du clavecin. Par exemple, il peut y avoir un luth, un théorbe et puis un chanteur ou une chanteuse, une soprano. Mais c'est rare. En général, dans 99% des cas, 95% des cas, il y a un clavecin. Ça a le rôle du piano, de la musique de chambre romantique, quoi. Que là aussi, dans les concerts, quoi qu'il y ait les quatuors, il n'y a que des cordes. Mais le piano aussi est omniprésent.
Qu'est-ce que ça apporte dans la musique, les pianos et les clavecins ?
Alors, ça apporte, le clavecin en tout cas, nécessairement ce qu'on appelle le continuo. C'est-à-dire que quand il y a de la musique de chambre, c'est le clavecin qui joue en fond, en continuo, on comprend cela. Et dans la musique de chambre, quoi. Ça porte ça. Et puis, il y a aussi quand même des parties solistes aussi. Hein.
À droite, à l'angle de la rue de l'Amitié, est indiqué le chemin des galeries. Tiens, on retrouve Elsa, la créatrice de Chaman. Du bruit dans l'atelier... Allons voir ce qu'elle fabrique. Elsa, qu'est-ce que vous faites là ?
Alors, je travaille sur une ardoise de Maurienne. Et je réalise un motif végétal. Mon travail est essentiellement basé sur les végétaux, les fleurs, les feuilles, les plantes. J'aime bien jouer sur les contrastes et les contraires, minéral, végétal, le blanc et le noir, puisque je travaille principalement donc, l'ardoise et le marbre de Carrare. Et oui, jouer sur les paradoxes, essayer de faire des pièces légères, donc très découpées, très ajourées, à partir de matériaux denses qui sont censés être lourds. Et j'aime bien jouer sur ces deux contraires.
Vous venez de finir une sculpture pour le village de Bargème.
Dans le cadre d'un parcours qui sera sur les 9 villages du canton, sur le thème d'histoire et légende. Et il y aura un différent artiste qui travaillera dans chaque commune sur le thème histoire et légende de sa propre commune. Moi, j'ai travaillé une sculpture donc, qui sera en ardoise. Et j'ai choisi comme thème les seigneurs de Bargème, donc la famille Sabran-Pontévez, Dagou. Et c'est une spirale qui s'enroule autour du mot Bargème et qui représente les différents prénoms des seigneurs successifs du village de Bargème.
C'est une famille qui a eu une drôle de destinée.
Oui, ça a été assez violent, ça a été assez sanglant, parce qu'il y a plusieurs membres de la famille qui ont été assassinés par les habitants, sachant que c'était des tyrans assez redoutables, donc la population s'est vengée. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était donc de représenter voilà, le temps qui passe comme une spirale, mais sans forcément tenir compte des bons ou des mauvais moments, puisque ça, ça fait partie de la vie et c'est le déroulement de la vie.
Pour aller vers l'église, il faut partir à l'assaut d'un vieil escalier escarpé, à mi-chemin, la galerie du milieu. Rémi Colombet.
Je suis photographe installé sur la galerie depuis un an et demi déjà. Voilà, la photographie, c'est quelque chose que je pratique depuis une trentaine d'années à peu près. Toujours même cursus, argentique, puis numérique, avec du labo. Et actuellement, ce sont de grands tirages numériques. Ce sont des univers oniriques. Des mises en situation, des autoportraits, des portraits. Après, il y a de très grands tirages, de plus petits tirages.
Vous exposez aussi d'autres artistes ?
Oui, il y a tout d'abord Michel Carlin, actuellement, qui est un très grand peintre et qui fait aussi de la sculpture et qui m'a confié donc une série de statuettes. Le vernissage est vendredi 8 août. Il y a 16 pièces qui sont présentées. Des statuettes en bois, polychrome, et également un sculpteur ami qui s'appelle Dominique Merci, qui réside à Trigance et qui fait du métal.
Sculpture monumentale ?
Du monumental, des petites œuvres aussi. L'œuvre présentée est une petite sculpture de jardin à plusieurs modules en acier corten. Et je présente aussi un mobilier et des objets du XXe, partant de l'art déco, du mouvement moderniste jusqu'aux années 70-80. Je suis très très amateur de ce genre de pièces. Voilà, des lampes, des assises.
Qu'est-ce que vous aimez dans l'ambiance de Bargème ?
L'ambiance de Bargème est extrêmement stimulante, extrêmement calme. Il y a une énergie que je ressens et qui est présente, omniprésente, que ce soit en été, en hiver. C'est vraiment un endroit qui me porte.
Qui vous inspire ?
Qui inspire, qui porte. Bien que je sois inspiré aussi dans d'autres endroits. Hein. Mais bon, là, on a vraiment la chance d'avoir un cadre relativement exceptionnel. Tant au niveau des maisons, des jardins, des situations.
Est-ce que vous allez au festival de musique baroque ?
Oui, j'y suis allé plusieurs fois l'année dernière. Bon, c'est toujours hyper qualité, avec de grands, et je découvre, puisque je suis musicien moi-même, mais dans un autre registre, dans l'électronique. Et donc, ça me permet de découvrir de grands compositeurs ou interprètes, clavecin, musique baroque. L'année dernière, j'ai eu vraiment la chance de découvrir Jérôme Entaille, entre autres, et une claveciniste dont j'ai oublié le nom. Béatrice, je ne me rappelle plus de son nom, mais bon, ça m'est vraiment plu. Voilà, le lieu est exceptionnel aussi, c'est une église qui est magnifique, qui est une petite église avec énormément de belles pièces restaurées, et règne une atmosphère très particulière lors des festivals.
Il reste du temps avant le début du concert. Allons faire un tour vers l'Abreuvoir. Derrière l'Abreuvoir s'est récemment installé un potier, Hugues Liberato.
Lors d'une promenade dans le Haut-Var, de la route nationale qui passe en bas de Bargème, j'ai vu ce village, les tours, le château, les maisons. J'ai eu comme une grande attirance pour aller le visiter. Et lors de la visite, il y a une maison qui m'a beaucoup plu. Avec une fontaine, j'aime beaucoup l'eau. Je suis tombé amoureux de cette maison tout de suite.
Qu'est-ce que vous ressentez à Bargème ?
La tranquillité, la liberté, quelque chose de clair, quelque chose de net et quelque chose d'évident.
Vous avez appris à faire de la poterie très jeune ?
J'ai commencé à 15 ans à l'internat. Il y avait un club poterie et j'ai toujours aimé toucher la terre, travailler la terre, même en enfant. Je suis originaire de l'Estérel et il y a de l'argile. J'ai toujours pris cette argile sauvage et j'en faisais des petits pots, des petites têtes. J'arrivais à trouver toujours quelque chose à faire avec. Après, il s'agissait de le faire un peu plus professionnellement. Alors j'ai commencé à prendre des cours pour le tour. C'est pas évident du tout, il faut centrer la terre, il faut avoir la bonne texture, il faut provoquer un petit peu ce que vous allez faire, c'est-à-dire provoquer le vase, donner à la terre l'impression qu'on la maîtrise et à la fois lui donner un petit peu le chemin pour la faire monter et pour faire quelque chose.
Qu'est-ce que ça vous procure de toucher la terre ?
C'est un plaisir assez étonnant parce qu'il y a quelque chose... J'ai fait aussi de la pâtisserie puisque j'ai été aussi cuisinier. Et je pense que c'est la même sensation de pétrir et à la fois de créer quelque chose avec ses mains. Et avec quelque chose de naturel, c'est-à-dire c'est parti de rien, enfin de la terre, donc c'est la base du sol. Et puis on arrive à en faire quelque chose de plus ou moins sophistiqué.
Quel type de poterie faites-vous ?
Souvent on me dit « Oh, tu ne dois pas faire de la vaisselle, toi ». Alors que la vaisselle, c'est très intéressant à faire. Parce que quand vous servez un plat délicieux, vous le présentez dans une belle vaisselle, mais la vaisselle, ça fait à peu près, on va dire, 35% du plat, de la réussite du plat. Parce qu'il est mis en évidence, il est beau, et en plus, quand on le déguste, il y a un son qui se crée avec la vaisselle. Donc j'aime la vaisselle en argile. Tout simple. J'aime pas la vaisselle de grès qui râpe un peu, qui fait un peu de bruit. J'aime la vaisselle comme ça qui coule, qui sonne. J'aime beaucoup.
Donc vous travaillez la terre cuite ?
La terre cuite, uniquement. La terre cuite, la terre sauvage et la terre aussi qui est travaillée par des usines où on peut acheter de la terre comme ça en pain.
Vous parliez de ce qui vous intéressait dans votre jeunesse, c'est-à-dire le style romain.
Alors j'ai fait beaucoup de fouilles archéologiques, parce que mes parents étaient fascinés par les fouilles archéologiques, que ce soit sous-marines pour mon père, ou plutôt préhistoriques et néolithiques, et aussi gallo-romaines du côté de ma mère. Et donc trouver des tessons de poterie, avec des petites figurines, avec ce ne serait-ce que des traits ou des encoches d'ongles, ou ça c'était extraordinaire. Et pour moi la plus sophistiquée, c'est la sigillée. C'est une terre qui n'est faite qu'à base de terre, il n'y a pas d'émail, et l'imperméabilité est faite et créée par une autre terre encore plus améliorée et par un trempage. Et c'est cuit dans des fours à bois. Et ils arrivaient à faire des choses tellement sophistiquées, tellement ciselé. Sigillé, ça vient de seau, d'ailleurs, comme un seau. Et on faisait des moules, on créait le seau avec plusieurs images, c'est-à-dire des petits seaux, des têtes de bélier, des têtes d'animaux, des personnages, des fleurs, des feuilles. Et on imprimait l'intérieur du moule, et après on y coulait dedans une terre, et en se rétractant, en séchant la terre, on avait tous ces dessins sur la face externe. Et une fois trempé dans une argile complètement purifiée qui couvrait tous les pores, avec une seule cuisson, on arrivait à faire une poterie très sophistiquée. D'ailleurs, qui est connue dans toute la Méditerranée et même au-delà.
C'est l'heure de retourner à l'église. Les spectateurs commencent à prendre leur place.
Fidèle depuis 30 ans, depuis qu'il existe. Et même, il y avait eu quelques représentations avant que ça devienne un vrai festival. Oui, il y a eu deux ou trois représentations avant et depuis.
Ah oui, c'est
très grande qualité.
Ah oui, ah oui. Le lieu... Les artistes choisis, c'est vraiment...
Nous avons eu la chance de vous recevoir dans la petite église de Bargème. Compte tenu de votre notoriété, qu'est-ce qui vous amène dans un lieu aussi discret ?
J'ai rencontré Philippe Soriano et Francis Néry, qui sont les organisateurs réellement de ce festival, il y a déjà une vingtaine d'années, je pense. Et je suis venu ici, ils m'ont invité pratiquement une dizaine de fois. Voilà, donc ce qui m'attire ici, c'est le fait qu'il y a des passionnés de clavecin, qu'il y a un instrument sur place. et qu'il y ait un cadre idéal, qui non seulement est très beau, mais qui est à la mesure de l'instrument. En dehors du cadre qui est merveilleux, encore une fois, c'est cette acoustique qui me semble idéale, c'est une sorte d'écrin qui laisse le clavecin s'épanouir. Mais aussi, on sent que dans le public, il y a des gens qui sont, je reconnais aussi des têtes, enfin, il y a des gens qui sont passionnés, qui viennent depuis toujours. C'est presque une petite famille.
Il y en a certains qui viennent depuis 30 ans à tous les concerts.
Voilà. Ça existe ailleurs, mais c'est quand même assez rare.
Vous venez d'enseigner dans un master class de la Fondation Schoenberger, oui. À Villecrosse. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est qu'un master class et quelle est la mission de cette fondation ?
Cette fondation qui a été créée par Madame Schoenberger est vraiment destinée à promouvoir l'art et les arts en général, et en particulier à aider les jeunes, les plus méritants, et à leur permettre d'avancer, d'avoir des concerts et d'être reconnus. Et principalement, les activités de cette fondation, c'était la première fois que je participais à leurs activités, ce sont des dizaines de jours de cours, masterclass, enfin donc un stage, où sont confrontés donc un professeur reconnu et une série d'élèves qui sont triés sur le volet et qui sont invités dans un lieu qui est assez paradisiaque. Et la semaine est couronnée par un concert des élèves. J'ai fait un certain nombre de cours comme ça dans ma vie, mais celui-là est un peu particulier. C'est surtout le niveau excellent enfin, qui le caractérise. Voilà, j'espère être réinvité dans le futur.
Vous faites une carrière de soliste et vous dirigez également un ensemble de musique baroque, le Concert Français. Quelle est la place de cette activité dans votre vie d'artiste ?
La direction d'ensemble, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que ça me permet de mettre en pratique avec d'autres mes propres recherches sur mon instrument. Malheureusement, ce n'est pas aussi fréquent que j'aimerais. Et finalement, c'est une question tout simplement économique. Enfin, c'est très compliqué dès qu'on réunit des gens. La musique coûte cher. Ça coûte. Donc il faut toujours des aides, des subventions et tout un jeu politique derrière qui est très compliqué. Enfin, malheureusement, ce n'est pas très simple. On a de réunir une vingtaine ou trentaine de musiciens et de faire la musique qu'on aime. C'est même défendu, d'une certaine manière. Il faut vraiment que derrière, il y ait toute une machine économique. Voilà, on ne peut pas faire la musique librement, aussi librement que je l'aimerais.
Vous êtes né dans un berceau d'artistes. Votre père était peintre, reconnu. Vos frères sont également musiciens. Qu'est-ce qui vous a amené à la musique ? Bon, on se doute que si tous les trois vous êtes musiciens, c'est que vous avez eu une éducation dans ce sens. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes passionné du clavecin ?
C'est effectivement un faisceau de circonstances. Mes parents n'étaient pas musiciens, mais passionnés par la musique de différentes manières. Il y a des gens qui sont des fous d'opéra, et dans ma famille, du côté de mon père, c'était plutôt vraiment le cœur de la musique allemande. La naissance de la musique allemande au XVIIe siècle, enfin, c'était quelque chose de très très fort du côté de sa famille. Et je pense que ça a eu beaucoup d'influence sur nos débuts. Enfin, on était confrontés à la peinture, à l'art en permanence. Puis je pense qu'il n'y a pas vraiment de hasard.
Et le clavecin, c'est...
Le clavecin, ben, c'est lié à la musique justement de Bach et c'était surtout ça. Voilà, les gens ont joué Bach au piano au début du XXe siècle et puis finalement... Après, les choses ont changé et nous, on est arrivé à ce moment-là. On a entendu autre chose, mais au départ, ce n'était pas le clavecin pour le clavecin. C'était vraiment la musique qu'on peut jouer avec le clavecin et pour laquelle on doit utiliser le clavecin, justement, et d'autres instruments. Et...
Dans votre récital de ce soir, il y avait beaucoup de morceaux de Jean-Sébastien Bach. Vous avez des attirances particulières pour ce compositeur ?
Oui, bien sûr. C'est lui qui m'a vraiment happé quand j'étais enfant, quand j'ai entendu sa musique. C'est un monsieur très important pour nous, pour l'humanité, et y compris pour ceux qui...
Pour les bébés aussi.
Oui, pour les bébés, certainement, mais c'est-à-dire c'est très important pour l'humanité entière, y compris pour l'immense majorité qui l'ignore. Moi, je suis là comme interprète simplement pour faire entendre sa musique et celle d'autres. Enfin, c'est notre rôle... La musique a besoin d'interprètes, et pour que ces choses durent, on est là, voilà.
Ces envolées que vous avez quand vous jouez, ça vous provoque des émotions ? Comment ça se passe à l'intérieur de vous quand vous jouez ?
C'est très paradoxal et très difficile à expliquer et inexplicable, parce qu'on doit d'une certaine manière se retirer, enfin retirer sa propre personnalité, ce qu'on on le fait jamais tout à fait, mais on doit s'approprier l'œuvre, c'est-à-dire qu'on doit la comprendre. Et ce qu'on fait doit être lié à notre compréhension de l'œuvre. C'est-à-dire qu'en réalité, on joue ce qui est là, ce qui est écrit dans la partition, sur la partition. Mais ce qui est écrit sur la partition, c'est presque un script, c'est rythme, c'est notre interprétation. Mais pour nous, c'est vraiment ce que le compositeur a voulu. On essaie de comprendre son langage, voilà, qu'il a noté de manière très succincte.
Ce soir, vous vous êtes arrêté de jouer en début de morceau à deux reprises, parce qu'il y avait du bruit dans la salle. C'est compliqué pour un musicien quand il y a du bruit. Vous avez besoin de concentration. Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des gens qui ne comprenaient pas la situation, à mon avis. Si on va voir un film au cinéma, bon, on essaie de se concentrer pour recevoir ce qui est quand même une œuvre, même si les gens qui sont là sur l'écran ne sont pas vivants et qu'on... Si on fait du bruit, on ne va pas modifier leur jeu. Mais alors, en concert, justement, on n'est pas devant la télévision. Si on fait du bruit, on a une influence directe sur le déroulement du concert. D'abord, si on fait du bruit, on empêche les autres qui ont envie d'écouter. Mais au-delà de ça, tout simplement, celui qui joue, moi, c'est mon cas. En tout cas, j'écoute énormément ce que je fais et j'essaie de réagir... au timbre, la manière dont le son se développe dans la salle, la manière dont la résonance disparaît, etc. Donc j'écoute des choses infimes et j'espère que les gens les écoutent aussi. Mais si on fait du bruit, là, tout ça est fini. Enfin, c'est comme si on va au musée, on regarde un tableau, mais on met quelque chose devant, donc il y a quelque chose entre l'œuvre et nous. Donc c'est fini. Voilà. Mais je ne pouvais tout simplement pas continuer parce que je n'entendais pas ce que je faisais, je ne pouvais pas agir.
Merveilleux, fantastique. Oh, merveilleux, c'est magnifique. C'est magnifique, magnifique. La rapidité, tout ce qui passe, l'énergie. Je me dis que c'est une énergie impressionnante. Et oui, c'est vraiment magnifique, porteur. Ça apporte de la douceur. Et j'allais dire, c'est la nourriture de l'âme.
Ah, ce soir, extraordinaire, extraordinaire. Alors écoutez, ça me fait penser à un autre claveciniste que nous avons entendu il y a longtemps, qui était David Moroney, qui m'avait donné la même émotion. Une émotion artistique, une émotion de perfection.
La gigue de ce soir, c'est vraiment un des grands moments de ma vie musicale.
C'est exactement ce que j'attendais, quoi. Parce que connaissant l'interprète, connaissant son talent, et connaissant même, j'hésiterai pas à dire son génie, c'est vraiment un interprète génial. C'est une famille géniale d'ailleurs, parce que le père de Pierre Antaille est Simon Antaille, peintre très célèbre qui est dans pas mal de musées, et qui a une rétrospective en 2013 à Beaubourg, à Paris. Plus son frère qui est Jérôme Antaille, qui est aussi un violiste et pianofortiste très connu. Il y a aussi un troisième frère, et qui est Marc Antaille, qui est un flûtiste aussi bien réputé. C'est vraiment une famille géniale, et dans cette famille géniale, Pierre est vraiment extraordinaire, quoi. Et je m'attendais à un résultat extraordinaire, et ça a été le cas. Ça a été le cas, c'était fabuleux. Et c'est tellement fabuleux que même des gens qui ne sont pas habitués à écouter clavecin, qui ne sont pas habitués à écouter des compositeurs comme Bach, par exemple, ont été séduits, ont été conquis par sa sensibilité, sa virtuosité et sa présence, son aura,
sa
même.
Sa force aussi. Hein.
Très forte, hein, vous l'avez ressenti comme ça, et qui fait qu'on est happé. Donc j'en suis resté très heureux.
À la fin du concert, il était exténué.
Oui, c'est ça. C'est pour ça que malgré tous les bravos, malgré tous les le succès, il n'a fait qu'un seul rappel. Alors que le public en aurait bien écouté encore deux, trois en plus.
Mais il n'a fait qu'un seul parce qu'il était physiquement exténué. Parce que, comme vous l'avez vu, il y a vraiment un engagement physique. Et pour les gens qui ne connaissent pas le clavecin, ils n'arrivent pas à imaginer à quel point c'est physique. C'est absolument extraordinaire, quoi.
Vous m'avez parlé l'autre jour de la place de la musique dans votre vie.
Oui, c'est une place, sinon la première place, mais une place...
Vous m'expliquiez qu'en fait, c'était une sorte de ressourcement, c'est ça pour vous ?
Oui, ça a été pendant toutes mes années de travail une nécessité pour tenir le coup. Entre autres, j'ai parlé tout à l'heure qu'il fallait aimer les gens pour faire le travail que j'ai fait, mais je crois que je n'aurais pas eu cet amour de la musique. Cela m'aurait été encore plus difficile de travailler comme ça. Surtout quand on vit ici, ce qui est un des avantages de vivre comme ça à la campagne. Je pouvais rentrer à 2h du matin de visite et puis écouter de la musique sans gêner de voisins, il n'y a pas de voisins. D'écouter de la musique à n'importe quel moment, quand j'en avais besoin, m'a beaucoup aidé. Et donc, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est une nécessité pour pouvoir tenir, quoi. Je vois mal comment on peut vivre sans musique, je crois, l'avoir dit ça. Il n'y a pas que la musique dans la vie, c'est sûr, mais la vie sans musique, je ne sais pas comment ça peut être.
Quelle est votre satisfaction par rapport à ces 30 ans d'organisation du Festival de musique baroque ?
Au bout de 30 ans, c'est peut-être d'avoir réussi à remplir à chaque fois l'église sans céder à la facilité. C'est-à-dire en restant toujours dans l'extrême qualité des concerts et de l'authenticité des interprètes et des œuvres, sans se dire, tiens, on va faire ça, ça attirera plus de monde. Non, on a toujours programmé en fonction de la qualité d'authenticité. Et comme ça marche, eh bien, c'est de la grande satisfaction.
Les deux prochains concerts auront lieu le samedi 16 août et le dimanche 24 août.
Pour le samedi 16 août, c'est l'ensemble Les Folies Françoises, comme l'on dit en vieux français, dirigé par Patrick Cohen-Akenin, qui est au violon, et Béatrice Martin au clavecin et Christine Plubeau, viol de gambe. Et ils interpréteront du Rameau, et en l'occurrence, les pièces de clavecin en concert, qui est une œuvre bien célèbre. Voilà, et donc je pense que ce sera un très beau concert, d'autant que Patrick Cohen est un brillant violoniste, et puis Béatrice Martin est une claveciniste aussi très brillante. D'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'elle a eu en 1998 le premier prix de Bruges, qui est le prix au monde le plus prestigieux pour le clavecin. D'ailleurs, c'est une interprète, en plus du fait de jouer dans des ensembles de musique de chambre baroque, et qui donne aussi des récitals en solo, hein, comme Pierre Antaille, et qui est venue d'ailleurs déjà à Bargem, et on sait que c'est une très très belle interprète.
Et l'ensemble La Rêveuse ?
Alors, La Rêveuse, c'est le 24 août. Alors là, évidemment, sur le papier, ça fait un concert encore un peu plus attrayant, puisqu'il y a viol de gambe, de nouveau, il y a le théorbe et le luth, et puis le clavecin toujours, hein, puisque le clavecin est le pilier de l'été musical. Et puis, il y a aussi un ténor anglais, Geoffrey Thompson. Ils interpréteront de la musique anglaise du XVIIe siècle, Purcell et Love. Et je pense que ça sera un très très beau concert, très attrayant, parce qu'il y aura non seulement de la musique vocale interprétée par ce magnifique ténor que j'ai déjà entendu dans un festival à Marseille, et qui a un très beau timbre, qui est très expressif, qui s'engage bien dans sa façon de chanter, dans son chant. Et en même temps, il y aura aussi des pièces instrumentales très attrayantes, très agréables à entendre. Et justement, on ne peut pas faire ce métier si on n'aime pas vraiment les gens. Il faut vraiment avoir cet amour de l'autre, des autres.
Ça apporte de la douceur et, j'allais dire, c'est la nourriture de l'âme.
La vie sans musique, je ne sais pas comment ça peut être.
Bargem, c'est ça. Son prestigieux festival de musique, certes, mais c'est aussi le calme de Dame Nature, Sa Majesté le Château Fort, un village de caractère et ses habitants non moins hauts en couleur, des fêtes, des artistes et des artisans talentueux, un lieu où le temps suspend son vol. Merci à tous ceux qui m'ont accueilli chaleureusement. Une dédicace spéciale au docteur Philippe Soriano, un être exquis, érudit et d'une grande humilité. Ce fut un réel bonheur de parcourir les rues de ce lieu magique.